Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et nous retournons en Libye pour évoquer la situation de ce pays en compagnie de Patrick Mzadeh, ancien diplomate, chercheur indépendant. Vous avez notamment publié Patrick Mzadeh au cœur de la Libye de Kadhafi chez Lattès. À côté de vous, Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express. Vous publiez une biographie de Kadhafi chez Perrin. Et aujourd'hui, lorsqu'on évoque le nom de Kadhafi, on pense aussi à un possible financement d'un parti politique, autrement dit, le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Que sait-on aujourd'hui à ce juste, vous, à ce sujet, vous qui avez évoqué et analysé la situation libyenne, Vincent Hugeux?
On est dans le régime de la suspicion plus que légitime. Il y a un faisceau de présomptions, mais également de faits, qui sont d'ailleurs éloquemment évoqués dans un ouvrage récent de Fabrice Arfi et Karl Lask, précisément sur la relation singulière entre le guide libyen et Nicolas Sarkozy. Tout cela incite à penser que effectivement il s'est passé quelque chose. Reste évidemment la difficulté majeure en ce genre de circonstances, c'est-à-dire une sorte de preuve matérielle irréfutable. Bon, mais au-delà de cette dimension, je dirais, financière, très prosaïque, l'aventure sarkozyste vis-à-vis de la Libye obéissait à d'autres impératifs, et notamment à la volonté d'éclipser le ratage absolu de la France officielle vis-à-vis des premiers printemps arabes, et aussi, peut-être, d'effacer sa propre mansuétude, son immense bienveillance envers Kadhafi, bienveillance qui était aussi dictée par des considérations économiques avec l'espoir de contrats juteux.
Alors, on va essayer de reparler de cela, mais tout d'abord, revenons à la Libye aujourd'hui avec une question qui se pose, qui est centrale dans la situation du pays, la manne pétrolière. Aujourd'hui, y a-t-il encore beaucoup de pétrole qui coule? Le secteur pétrolier est-il désorganisé? Où en est-on à ce sujet, Patrick Mzadeh?
Non, alors on a une production qui a remonté nettement depuis un an. On a dépassé 1 million de barils jour, donc on était à 1,5 million environ avant la guerre de 2011. Donc c'est, ça aussi c'est intéressant, parce que quand on voit la situation du pays, ça veut dire que par exemple les différentes factions n'ont pas joué la carte effectivement de garder le pétrole pour elle, ou d'essayer de l'exporter. Alors certes, c'est difficile parce que de toute façon, il y a des résolutions qui n'autorisent pas d'autres institutions que la NOC à exporter le pétrole. Mais par exemple, à l'Est, il faut savoir que les sites pétroliers, ça représente environ 70% de la production pétrolière, sont dans le territoire contrôlé par le maréchal Haftar. On en a parlé tout à l'heure.
C'est en fait, donc, il y a deux pouvoirs principaux, voilà, aujourd'hui.
Alors, ça, je pense que c'est important que je puisse expliquer ça aussi après. Mais donc, ce qu'il faut dire, c'est que dès qu'ils ont repris le contrôle des sites pétroliers, ils ont immédiatement annoncé que le pétrole et l'argent seraient mis à disposition de la Banque centrale et de la National Oil Company. Donc, on peut dire que ces institutions souveraines, pour l'instant, ont résisté à la bipolarisation, notamment entre l'Est et l'Ouest. Et c'est là que je vais expliquer rapidement, parce que c'est quand même assez important en ce moment, moi, ce que j'observe en Libye, c'est qu'on a deux gouvernements, un à l'Ouest soutenu par la communauté internationale, un à l'Est, qui est un gouvernement de type militaire. Grosso modo, il s'appuie sur un parlement élu en 2014, mais surtout c'est le pouvoir d'un homme fort qui s'est donc autoproclamé maintenant maréchal, et qui a pour modèle un petit peu le pouvoir du général Sissi, du maréchal Sissi aussi en Égypte. Donc avec finalement comme pilier finalement des cadres, qu'ils soient militaires ou civils, de l'ancien régime. Donc on a, et puis les chefs de tribu à l'Est qui ont fait allégeance aussi majoritairement au maréchal. Donc on a une culture politique à l'Est qui est une culture pyramidale, autoritaire, sur un modèle bien connu dans le monde arabe. À l'Ouest, on a une culture qui est directement issue, je dirais, de l'insurrection et de la guerre de 2011. C'est-à-dire on a finalement le produit de ce que je disais tout à l'heure, des groupes armés, hein, des nouvelles élites révolutionnaires, qui sont des gens qui étaient parfois en prison sous Kadhafi, certains hommes d'affaires qui ont senti le vent venir et qui ont retourné leur veste au bon moment, et des élites venant de l'étranger qui sont d'anciens opposants historiques. Donc on a une pluralité d'acteurs, je dirais, post-révolutionnaires à l'Ouest, et donc une difficulté beaucoup plus grande à recomposer quelque chose de, je dirais, d'homogène et de politiquement... je dirais viable pour l'instant. Hein, et ces deux cultures politiques s'opposent, hein, parce qu'à l'Ouest, on ne veut pas revoir revenir un régime militaire, donc c'est tout ce dont on ne veut pas pour une majorité des gens. Et à l'Est, on ne veut pas de ce qu'on qualifie de criminel, puisque tous ces groupes armés, tous ces révolutionnaires sont qualifiés de criminels. Donc cette impasse, c'est un petit peu, c'est pas uniquement des histoires de personnes, hein, on focalise souvent sur Haftar ou sur Serraj, c'est surtout maintenant des structures sociales qui sont différentes, et donc il va falloir faire avec ça, hein, c'est toute la tâche du nouveau représentant de l'ONU en Libye, Hassan Salamé, d'arriver à reconstruire sur ces différences.
Alors justement, qu'est-ce qu'il fait Vincent Hugues, Hassan Salamé ? Quels sont les scénarios plausibles ?
Alors il consacre beaucoup d'énergie à cette tâche ingrate. Hein. Hassan Salamé, c'est ce politologue qui fut enseignant à Sciences Po, qui fut aussi ministre de la Culture du Liban, son pays d'origine, et qui a donc repris ce chantier colossal. Alors, sa vision des choses est la suivante. Il le disait encore récemment dans un entretien accordé à l'agence France-Presse. Construction, reconstruction d'institutions dignes de ce nom, à partir quasiment d'un désert en la matière. Et donc, lui souhaiterait d'abord un nouveau gouvernement d'union nationale, plus représentatif des différentes tendances qui viennent d'être dessinées à l'instant. Il voudrait ensuite que l'on passe à une réforme constitutionnelle après une conférence nationale de réconciliation. Et sa perspective, ce sont des élections générales, à la fois présidentielles, législatives et locales, donc municipales. Simplement, il fut un temps où il affichait un objectif été 2018. Il a compris depuis lors que c'était sans doute un peu ambitieux et il est un peu moins précis sur le calendrier. Mais voilà un peu la ligne de conduite qui est la sienne aujourd'hui.
Vous parlez d'un désert d'institutions. Là aussi, il faut faire un peu d'histoire. Ce que vous évoquez dans votre biographie de Kadhafi, Vincent Hugues, c'est que le travail de construction de Kadhafi a consisté à déconstruire finalement un certain nombre de corps intermédiaires, à faire en sorte que la Libye ne puisse être gouvernée que par lui seul.
Mais c'est-à-dire qu'il a au fond d'abord un héritage qui est celui d'un pays fragmenté, qui a eu à un moment donné, sous le régime monarchique, une constitution fédéraliste. Il y a quand même trois entités géographiques très distinctes.
On peut les rappeler rapidement.
La Cyrénaïque à l'est, hein, la Cyrénaïque de Simon de Cyrène d'ailleurs. Vous avez à l'ouest la Tripolitaine et vous avez le Fezzan, donc cette partie sud, pour l'essentiel désertique, avec néanmoins des oasis peuplées.
Bien. Qui là aussi recouvre évidemment des frontières coloniales.
Alors, il faut se souvenir que Kadhafi lui-même est issu d'une tribu, d'un clan minoritaire. Et que un des aspects de son génie politique, au sens de Montesquieu dont il fut d'ailleurs dans sa prime jeunesse un lecteur, paraît-il, assidu, c'est qu'il a cette intelligence de la construction des allégeances tribales et du prix à payer pour les entretenir et les cultiver. Mais il y a aussi chez Kadhafi une prétention à la théorie politique, qui est d'ailleurs merveilleusement incarnée par cet ouvrage étrange, qui s'appelle le Livre Vert. C'est la troisième théorie universelle, c'est-à-dire que Kadhafi est convaincu...
Quand vous parlez de troisième théorie universelle, c'est le nom qu'il donnait à cette théorie.
Alors la théorie, pourquoi la troisième ? Parce que précisément, il pense qu'il va transcender, qu'il a transcendé la contradiction historique ancienne et stérile entre le marxisme et le capitalisme. Bien. Et donc, d'une certaine manière, sa Libye, c'est le laboratoire, et pour lui aussi, c'est l'exemple, la vitrine de ce que devrait être la forme politique de demain. Et d'ailleurs, j'ajoute à ceci que si il revendique très vite le titre de « Qaïd al-Thawra », c'est-à-dire guide de la révolution, qu'il récuse le statut présidentiel, c'est évidemment pour fabriquer une forme d'irresponsabilité politique au sens étymologique du terme, mais c'est aussi une manière de dire qu'il est au-dessus de ce type de contingence, alors qu'en réalité, rien ne se fait sans son aval.
Et on a donc la création d'une culture politique qui est une culture politique inédite, un pays qui, cependant, c'est peut-être important de le souligner, Patrick Hemzadeh, fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire, lorsqu'on prend, par exemple, le produit intérieur brut par habitant, à l'époque de Kadhafi, on était un peu au-dessus de 11 000 dollars. Maintenant, on serait plutôt à 5 000 dollars, ce qui signifie que l'économie tournait à l'époque.
Oui, oui. Alors, c'est une économie de type rentière. Hein. Donc, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, les travailleurs immigrés, les Libyens ne travaillaient pas, avaient des emplois où étaient rémunérés ou rétribués sur des emplois qu'ils occupaient pas. Hein. Donc, effectivement, c'était. Je dirais que le moment révolutionnaire de 2011, qui a basculé ensuite sur une guerre civile assez vite, hein, je crois que c'est important de redire ça aussi, parce que en France, on a vu souvent dans cet événement une grande révolution sociale, d'émancipation, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'en 2011, on n'a pas eu du tout affaire à un moment révolutionnaire sur des bases économiques. On voulait à un moment donné se débarrasser du vieux. Il y a eu un effet, je dirais, de domino avec la Tunisie et l'Égypte, transmis par les Al Jazeera, les réseaux sociaux, etc. Et beaucoup de jeunes, effectivement, avaient envie de changer. Les tribus n'ont pas suivi au début. Hein. Les anciens n'étaient pas du tout sur cette ligne-là. Les salafistes non plus. Enfin, c'était pas du tout quelque chose qui était général à l'ensemble de la population. Et ce qui est paradoxal, c'est que finalement, ces jeunes qu'on a vu beaucoup sur les écrans de télévision en France, etc., sont sortis maintenant des écrans.
Hein, ils sont où?
Ils sont rentrés chez eux parce que c'est pas eux, enfin c'est pas la Libye en tout cas qui pour lesquels ils sont descendus dans la rue en 2011. Hein. On a d'autres personnes qui ont pris le pouvoir. Hein, je l'ai dit à l'est des militaires. On a à un moment donné, il y a eu les islamistes. Hein, faut savoir que l'islam politique, on a été rapide, mais a été quand même assez vite balayé de la scène. Ce sont les grands perdants en ce moment de la querelle, enfin des divisions, de la lutte pour le pouvoir en Libye. Hein, ça, c'est intéressant de le noter parce qu'on a souvent aussi mis en avant cette perspective chez nous. Donc, on a voilà d'autres acteurs, les gens qui étaient mieux organisés, comme toujours hein, dans les révolutions, c'est pas forcément les gens qui les font qui ensuite occupent le devant de la scène. Donc, je dirais que la situation économique n'était pas quelque chose de préoccupant. Les gens vivaient plutôt bien. Voilà, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. C'est vrai que maintenant c'est difficile. Alors, juste une petite anecdote pour terminer, mais j'ai entendu, que j'ai relevé dans un de mes récents voyages en Libye, c'est que quand j'étais en Libye avant la chute du régime, tout le monde disait Gaddafi ou le vieux, etc. Et maintenant, tous les interlocuteurs l'appellent Muammar par son petit nom. Vous voyez, donc c'est assez drôle parce que cette personne qui a été aussi, effectivement, on peut le dire, haïe ou aussi moquée, hein, maintenant, ben on l'appelle quelque part sur un mode un peu affectif. Donc quand je dis ça aux Libyens, bon, ils en rient, mais c'est vrai que c'est assez significatif, je trouve.
Justement, on va revenir quelques années en arrière, le 19 mars 2011, lorsque Nicolas Sarkozy a annoncé le début de la guerre en Libye contre Kadhafi.
En Libye, une population civile pacifique qui ne réclame rien d'autre que le droit de choisir elle-même son destin se trouve en danger de mort. Nous avons le devoir de répondre à son appel angoissé. L'avenir de la Libye appartient aux Libyens. Nous ne voulons pas décider à leur place. Le combat qu'ils mènent pour leur liberté est le leur. Si nous intervenons aux côtés des pays arabes, ce n'est pas au nom d'une finalité que nous ne chercherions à imposer au peuple libyen, mais au nom de la conscience universelle qui ne peut tolérer de tels crimes.
Vincent Hugues, désolé, ça tombe sur vous, on a bien fait d'intervenir.
Écoutez, le seul puissant de cette planète qui a fait son mea culpa, c'est Barack Obama. Il a dit de cette intervention que c'était la pire erreur de son second mandat. On attend toujours les confessions de Nicolas Sarkozy et de David Cameron, le Britannique. Si l'on juge la pertinence d'une intervention de type militaire au résultat, c'est-à-dire à l'héritage, donc à l'instant T, quel est l'état de la Libye, c'est ce qu'on vient d'évoquer ensemble, on est évidemment tenté de dire « ben non ». Il ne fallait pas y aller. Alors en même temps, méfions-nous d'une tendance humaine naturelle qui est celle du révisionnisme instantané. C'est-à-dire qu'on a tendance, après, à réévaluer à la hausse la performance politique d'un dictateur, parce qu'on s'est dit, vous voyez, après lui, c'est le chaos. J'ai vu ce phénomène dans l'Albanie d'après Enver Hoxha, dans la Roumanie d'après Ceausescu, dans l'Union soviétique, puis la Russie d'après le communisme, et dans l'Irak d'après Saddam Hussein. Donc, ce n'est pas parce que la situation aujourd'hui de la Libye est préoccupante, chaotique, calamiteuse, etc., qu'il faudrait faire, sur le registre affectif qu'à juste titre Patrick Kaïmzadeh évoquait à l'instant, faire une sorte de réhabilitation du personnage Kadhafi.
Patrick Kaïmzadeh, vous étiez contre l'intervention, j'imagine que vous n'avez pas changé d'opinion.
Non, alors j'étais pas du tout contre parce que j'avais de la sympathie pour ce régime. Hein. Si vous lisez mon livre, vous verrez que j'étais extrêmement critique. Ce que je voulais dire, c'est que la voie politique a été écartée dès le départ. Voilà. Quand le 16 février les émeutes ont commencé, on a commencé dès le 19 février. Nicolas Sarkozy l'avait dit à Bruxelles, à dire que Kadhafi n'était plus légitime. A invoqué des bombardements aériens dont on sait maintenant qu'ils n'ont jamais eu lieu
sur Benghazi
et sur Tripoli. Hein, à l'époque, on nous avait dit qu'il avait bombardé la foule à Tripoli.
On sait maintenant que c'est pas vrai.
On redoutait. Donc, si vous voulez, il y a eu dès le départ l'option militaire a été mise sur la table. Quand on dit il n'est plus légitime, on lui parle plus. Ce n'est plus un interlocuteur. Je pense qu'effectivement, on s'est mis dans une logique de guerre qui fait que des deux côtés. Du côté des insurgés comme du côté Kadhafi, ça a renforcé les extrémistes alors qu'une majorité de gens, y compris dans l'entourage immédiat de Kadhafi, voulaient négocier et qu'il y avait des possibilités. Donc dire qu'il était irrationnel, qu'il était fou, c'est un petit peu facile. Et je pense que Nicolas Jeu me contredira pas, puisque c'est quelqu'un avec lequel on a négocié plein de choses et qui a su lâcher quand il a vu que, il était temps de lâcher.
Donc, alors justement, c'est
simplement
important.
Simplement ça, on va pas refaire l'histoire, mais je pense qu'on n'a pas exploré cette voie. Et en tant qu'effectivement, ayant été diplomate, je pense que la voie de la diplomatie, comme depuis quelques années déjà, on privilégie l'option militaire en disant, voilà, on va régler les choses, on fait un régime change, et puis ensuite on passe à autre chose.
C'est important de souligner cela, Vincent Hugeux, parce que vous revenez sur, là aussi, la caricature de Kadhafi en fou irrationnel. Il était cela, mais il n'était pas que cela, et par conséquent, le pays avait une forme d'équilibre.
Écoutez, le mantra que j'ai le plus souvent entendu au fil de cette enquête, c'est précisément « ce type est fou ». Est-ce que l'on peut réduire le personnage Kadhafi à ce semi-constat ? Écoutez, est-ce qu'on peut tenir pendant 42 années, certes, à l'appui de cela, un appareil répressif d'une formidable efficacité, si l'on est un dément inguérissable. Non. Il y a chez Kadhafi, je le disais tout à l'heure, une forme d'instinct et de génie politique. Et puis, bien sûr, personnage fantasque, des lubies, je m'amuse à développer à un moment donné une sorte de petit abécédaire de ses obsessions
des voitures.
Les plus cocasses, et de oui, ses engouements. Donc, je veux dire, on ne peut pas réduire le débat à cette dimension de folie. Ce qui est parfaitement clair, c'est que effectivement, petite anecdote à cet égard, il y a une décision de principe qui est prise. Donc, je connais par exemple un haut gradé français dont la mission était de fournir des notes au Quai d'Orsay à l'Élysée sur ce que serait la conséquence au cas où. Il ne portait pas de jugement de valeur, lui. Il disait, voilà, si il y a une intervention militaire qui aboutit au renversement de la maison Kadhafi, voilà ce qui risque d'arriver, notamment au niveau régional. Et on a vu ce qui est advenu de la zone saharo-sahélienne depuis lors. Et au bout de la deuxième note, son supérieur hiérarchique lui a dit, écoute, si tu tiens à ton avancement éventuel et à ta carrière, arrête. L'Élysée a décidé, point. Après, c'était une question d'habillage. Hein. Et encore une fois, je pense que la France officielle avait beaucoup à se faire pardonner de ses égarements dans le monde arabe, et que ça explique davantage cela que toute autre hypothèse de travail.
Les conséquences de la situation libyenne, Patrick Kaïmzadeh, sur la région maintenant ?
On l'a souvent évoqué, enfin, après la guerre de 2011 sur les conséquences au Mali, hein, bien sûr, avec un certain nombre d'armes qui ont été transportées là-bas, des combattants également. D'une manière générale, pour les voisins, notamment, on a parlé tout à l'heure de la question migratoire, puisque en fait maintenant, en l'absence d'État, effectivement, ça devient une terre de passage et d'exploitation encore plus. Et puis bon, pour les États voisins, c'est une préoccupation, hein, bien sûr, parce que non pas pour les Libyens forcément qui vont combattre, qui vont faire des attentats chez eux, comme on a pu l'entendre parfois, mais par exemple pour les Tunisiens, c'est une préoccupation, parce qu'effectivement il y a beaucoup de Tunisiens qui sont partis à l'époque où il y avait une présence de l'État islamique en Libye, combattre en Libye, et donc ce risque qu'ils reviennent ensuite chez eux, ça c'est une préoccupation. Il y a aussi la question, pour les Égyptiens comme pour les Tunisiens, du marché du travail. C'était une grosse source de revenus pour beaucoup de Tunisiens et d'Égyptiens. Il y avait 600 000 Égyptiens, travailleurs immigrés égyptiens, qui travaillaient. Donc tout ça, c'était des revenus très importants, pas pour l'État égyptien lui-même, mais pour la population. C'est des gens qui ont envoyé de l'argent à leur famille. Donc je dirais qu'il y a, bien sûr pour les voisins des conséquences sécuritaires, des conséquences économiques. Tous les Libyens aussi qui sont à l'étranger, qui sont réfugiés en Tunisie ou en Égypte, ça représente plus d'un million de personnes aujourd'hui, hein, qui vivent en exil. Donc bien sûr ça a des conséquences, je dirais, pour les pays de la région. Alors sur l'État islamique et le terrorisme dont on a beaucoup parlé, pour l'instant on peut dire qu'il n'y a plus d'emprise territoriale de l'État islamique.
Ce qui veut dire que c'est un problème
Libye.
Qui a été résolu.
Il y a une petite ville à l'est, effectivement, qui est une ville enclavée, qui s'explique là aussi par des considérations sociologiques, parce que c'est toujours une ville qui a été en opposition avec son environnement régional immédiat. Et donc, à l'époque, ils étaient anti-kadhafistes, ensuite ils ont été islamistes. Maintenant, il y a des jeunes qui ont fait allégeance à Daesh. Mais je dirais que c'est pas... On peut pas comparer avec les implantations qu'il y a pu y avoir en Syrie et en Irak. Donc, si vous voulez, la justification encore d'une nouvelle intervention parce qu'il pourrait y avoir un risque d'État islamique, je pense, est à mon avis, est pas bonne. Et une nouvelle intervention militaire en Libye, comme on l'a entendu il y a environ un an, apporterait beaucoup plus de conséquences négatives que de stabilisation.
Comment interviennent les puissances étrangères aujourd'hui en Libye, Vincent Hugeux ?
Elles le font d'une manière assez lointaine, précautionneuse et par l'entremise d'intermédiaires, etc. Il y a peu de présence diplomatique, par exemple, sur place aujourd'hui. Alors, il y a quand même en arrière-plan cette idée que, par exemple, le pactole pétrolier, il est là. Il est là et il a vocation à rester là, hein, au cours du baril d'aujourd'hui. Donc c'est un pays avec lequel il faut continuer d'entretenir des relations économiques, voire restaurer. Vous avez aussi des entreprises qui aujourd'hui tâtent un peu le terrain. Mais simplement, vous savez ce qu'il en est quand vous avez un pays de ce genre. Il y a d'énormes problèmes au niveau des assurances, par exemple,
sécurité,
des implantations.
Hein,
vous avez les questions des expatriés. Est-ce qu'on envoie des expatriés ou pas? Non, alors on va travailler avec un point d'appui libyen, souvent tunisien d'ailleurs, parfois égyptien à l'est, etc. Donc on a cette phase d'un peu de marée où on tâte le terrain. On ne veut pas perdre l'hypothèse d'un retour du marché libyen, mais en même temps, on n'est pas dans des prises de risques spectaculaires aujourd'hui.
Un commentaire à ce sujet, Patrick.
Sur les ingérences, si vous voulez, je pense que ça, c'est aussi quelque chose que je trouve préoccupant, c'est qu'on n'a pas, on n'est pas dans une guerre par procuration comme en Syrie, en Libye. Par contre, on a des influences extérieures. Alors là, je m'explique, c'est pas une présence militaire directe, mais le fait pour tel ou tel pays de soutenir telle ou telle faction, forcément entretient les divisions. Hein. Donc quand vous avez des gens qui se sentent soutenus par un grand pays comme l'Égypte ou par l'Union européenne aussi, hein, on fait la même chose. Quand on a soutenu finalement le gouvernement d'union nationale, ou qu'on avait légitimé le Parlement avant à l'Est, finalement, à chaque fois qu'on donne du poids ou qu'on légitime une entité, quelle qu'elle soit, forcément... on modifie les équilibres locaux. Et je pense que c'est aussi une préoccupation, c'est que, entre guillemets, c'est pour ça que je dis entre guillemets, la communauté internationale ne parle pas d'une même voix sur la Libye. L'Angleterre soutient ses groupes, la France soutient ses groupes, les Italiens soutiennent leurs groupes, l'Égypte aussi, la Turquie aussi. Donc, si vous voulez, tout ça complique la situation. Et je dirais que, avant de parler d'une seule voix, on a encore beaucoup de travail.
Vincent Hugeux.
Un personnage, très brièvement, incarne cette complexité, le fameux maréchal Khalifa Haftar, maître de l'Empire de l'Est et qui a évidemment une ambition, je dirais, à l'échelon national. Mmh. Eh bien, Haftar a été l'un des officiers les plus brillants et les plus prometteurs de l'armée de Kadhafi, notamment lors de l'invasion du nord du Tchad. Haftar se trouve coincé parce que cette aventure militaire vire au fiasco. Il se trouve coincé avec plusieurs centaines de ses hommes. Il est exfiltré par les Américains et il s'installe où ça ? En Virginie, pas très loin d'un patelin qui s'appelle l'Anglais, qui est évidemment le berceau de la CIA. Mais aujourd'hui, Haftar, après son retour en 2011, entretient d'excellentes relations, notamment avec Moscou. Donc, vous voyez, un seul personnage comme celui-là, qui vient de très loin, qui a été encore une fois une pièce maîtresse sur le registre militaire du système Kadhafi, est aujourd'hui à la fois courtisé par les uns et par les autres.
Un mot de conclusion, Patrick Hamzadeh, sur cette situation donc aujourd'hui complexe que l'on a décrit.
Oui, bah, je dirais qu'il faut, avec la Libye, comme partout ailleurs, se méfier des idées simples et binaires. Je crois que c'est effectivement assez compliqué. C'est pas pour ça que c'est le chaos, hein, comme je disais au début. Donc cette complexité fait que ça va prendre du temps. Ça va prendre énormément de temps. Comme je disais, il y a des cultures différentes, il y a des ingérences étrangères aussi. Mais je suis pas aussi pessimiste qu'on pourrait l'être au vu de ce qu'on entend souvent sur la Libye. Je pense qu'il y a des lueurs d'optimisme qui peuvent encore continuer à s'allumer.
Vincent Hugeux.
Une dimension psychologique. Je crois beaucoup, d'une certaine manière, à la persistance rétinienne de la tyrannie. C'est-à-dire que une société reste marquée post-mortem, s'agissant de Kadhafi, par des pratiques, des usages, des disparitions. Et juste, je cite cet homme d'affaires, ce chef d'entreprise, qui me disait « Tous, à un moment donné, et quoi qu'il m'en coûte de vous le dire, nous avons été fascinés, voire épris de celui qui fut notre bourreau. »
On retrouve votre biographie de Kadhafi, Vincent Hugeux, elle est publiée chez Perrin, et votre livre, Patrick Hamzadeh, Au cœur de la Libye de Kadhafi, c'est chez Lattès